Morale, Philosophie, Éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 14 octobre 1999, à Saint-Genard.
Pouvez-vous nous dire pourquoi il est nécessaire d'avoir une philosophie pratique pour entrer en philosophie spéculative? D'une façon absolue, on peut entrer en philosophie spéculative tout de suite. Ceci est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, d'autres l'ont dit avant nous. Alors, vous voyez, on ne sait pas très bien si ça vient de nous ou bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est que la philosophie a commencé par un point de vue pratique. Nous baignons dans un climat qui peut faire que le point de vue spéculatif soit premier, mais il n'y a pas que nous. Hein. Nous avons été élevés nous avons été éduqués par des gens qui, peut-être, ont commencé par la philosophie pratique et qui nous disent c'est tellement, ça va tellement plus loin la philosophie spéculative, la métaphysique, puisque ça va jusque Dieu, c'est ça qui m'intéresse. Oui, pas très bien. Il y a la vie chrétienne, hein. Et la vie chrétienne nous porte vers le point de vue de la contemplation. La vie chrétienne nous donne un très grand amour de la philosophie pratique, c'est évident, pour suivre Jésus. Mais elle est toute orientée vers la recherche de la vérité. Mais c'est simple, parce que nous sommes bâtis avec la sensibilité. Et la philosophie pratique nous fait regarder en premier lieu ce que nous sommes capables de faire. Regardez un gosse. Il joue à l'architecte, il construit, il fait des tas de choses comme ça. C'est ça qui fait du sable, évidemment. Mais c'est ça qui s'intéresse. Il ne va pas se mettre à dire, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est inquiétant, du reste. Vous voyez, c'est la réflexion d'une mère, je me souviens, ça, c'était, je connaissais sa mère qui me disait combien elle était intelligente, ce qui est normal pour une mère, n'est-ce pas? Alors, elle me racontait que quand il avait 4 ans, la mère vient lui porter sa soupe. Et, maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Ah, non, question de spéculative. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors, sa mère me dit, mon petit, je crois qu'il vaut mieux prendre ta soupe tout de suite. Philosophie pratique. Plutôt de découvrir ça, tu sens, c'est très difficile, ça va, on y croit. Puis alors la mère s'en va. Puis quand elle revient, 10 minutes après, le gosse était en train de prendre sa soupe. Alors, la mère, elle aurait mieux fait de rien dire, je crois, au point de vue éducation. Mais je lui ai posé la question, alors tu as trouvé? Il regarde sa mère, oui. Alors qu'est-ce que c'est? L'éternité, c'est ça. Oui, le schéma tout à fait primitif de l'éternité, c'est que le commencement et le terme se rejoignent. Alors, pour un gosse de 14 ans, c'est assez joli. Et ça, c'est sûrement vrai, c'est pas modifié. Alors, la connaissance pratique est première pour nous, c'est sûr. On connaît mieux ce que c'est que la soupe, ce que c'est que le lait, ce que c'est que le vin, que... On le connaît mieux pratiquement, sensiblement, imaginativement, voyez, avant de savoir quelle est l'éternité. Je ne comprends pas bien ce passage que vous avez fait de l'art lithique. Justement, il n'y a pas de passage. Donc, je comprends que vous ne comprenez pas bien le passage, très bien. Il n'y a pas de passage et l'éthique n'est pas une méta-art. Il y a une reprise du réel, une expérience. Il n'y a pas de passage. le passage, celle, on pourra réfléchir ensuite. Voyez, et c'est ce qu'on fera, en montrant que l'art est premier, parce que il implique la sensibilité. Mais c'est toujours la sensibilité qui est première génétiquement. Première génétiquement. Nous sommes des êtres en devenir. Pas profondément, pas en perfection. Mais génétiquement, c'est toujours cela. Or, l'art implique le point de vue de la sensibilité, le point de vue pratique. On fait quelque chose, tout le gosse fait ça. Tous les gosses de tous les pays font ça. Il y a le syndicat des gosses. C'est bien ça. Faire tous d'abord des constructions. Donc il n'y a pas de passage, il y a une diversité. Et il y a une certaine union. Alors, quand on réfléchit beaucoup, point de vue de finalité. L'art est pour l'homme. L'éthique. Elle est aussi pour l'homme, elle est aussi pour l'autre, elle est aussi pour Dieu. Tiens, alors l'art aussi peut-être pour l'autre et pour Dieu, oui, mais pas de la même façon. L'éthique, c'est nécessaire. Oui. Alors, je ne peux pas être vraiment un homme si je suis complètement coupé des autres. C'est pour ça qu'un enfant, volé par une louve, va se mettre à vivre de la communauté louve. À bouiller, à marcher à quatre pattes. On apprend à marcher debout, droit. Ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est naturel. Et on mettrait assez longtemps, je crois. Ça dépend du milieu dans lequel on, même si on n'apprend pas à marcher, comme tout le monde marche, on copie. Aristote souligne énormément sur l'imitation qui joue terriblement pour l'éducation. Et donc c'est la cause exemplaire. C'est sûr que c'est la cause exemplaire. La preuve, c'est que l'enfant enlevé par une louve va aboyer comme la louve. On va marcher à quatre pattes comme la louve. Donc, vous avez fait de l'art à l'éthique à travers l'expérience de la responsabilité. Non. J'ai réfléchi ensuite, c'est pas la même chose. J'ai réfléchi ensuite en cherchant qu'est-ce qu'il y avait de premier dans l'éthique. Alors, on parle de responsabilité. La responsabilité existe-t-elle dans l'art? Donc, c'est pas le passage, vous voyez? C'est une analogie. C'est de regarder ce qui peut se passer chez l'un et ce qui peut se passer dans l'autre. Les deux domaines, les deux grands domaines de l'homme, c'est l'art et l'éthique. La politique vient en troisième lieu. Et c'est d'abord l'art et la politique, l'art et l'éthique. Ça, cela existe partout. Et dans toutes les civilisations, vous trouvez les deux. Donc c'est une donnée commune de l'homme et de la morale. Une donnée commune de l'homme, l'art et la morale. Et distinguer les deux. Alors, qu'est-ce que fait le philosophe? Il essaie de saisir qu'est-ce qu'il y a de fondamental, de premier, pour l'éthique et l'art. Là, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que pour moi, c'est l'art ou l'éthique? Quelle est la proportion de dans une éducation humaine? Qu'est-ce qu'il faut insister plus sur l'éthique ou sur l'art? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est ordonné non pas à l'autre, mais à l'homme plus profondément? L'art est pour l'homme, il est aussi pour l'œuvre qu'on fait, mais cette œuvre est pour l'homme. Elle est agréable, elle est utile, elle me provoque beaucoup de joie. C'est pour l'homme. Et l'éthique, c'est pour que l'homme soit un homme qui petit à petit acquiert la perfection. C'est-à-dire se développe pleinement dans un sens qui soit bon. La vertu que je cherche me rend bon. Tandis que l'art que je possède, n'est-ce pas, ne fait pas de moi un homme bon. Vous pouvez devenir de très bons artistes et ne pas être très religieux. C'est très rare qu'on voit l'art et l'aspect religieux tous les deux s'épanouir pleinement comme en Saint Frangelico. C'est étonnant et qui s'enrichissent mutuellement. On ne peut pas nier. Si Frangelico n'avait pas été moine, je suis persuadé que son art était moins beau, aurait été moins grand, n'aurait pas eu la même profondeur. Mais il ne faut pas dire à partir de là que la vie monastique vous rendra vraiment artiste. Ah non, pas du tout. On voit ça au Carmel de façon remarquable. Des saintes religieuses qui sont, je suis persuadé, très saintes, et qui, au point de vue du goût, quelquefois, on peut discuter, quoi. Tandis qu'au point de vue sainteté, si vous mettiez à discuter, je suis sûr que vous seriez perdu. Vous seriez obligé de dire oui. C'est une sainte fille, c'est une sainte religieuse, mais il n'y a pas de goût. Alors c'est vrai, si les carmélites avaient un tout petit peu, pas aujourd'hui, parce que, mais il y a 100 ans, il y a 50 ans, si les carmélites avaient un tout petit peu plus d'éducation artistique, ça aurait peut-être été mieux. Parce que plutôt que de donner ou de vendre des images qui sont artistique minable, genre, ce qu'on veut dire, elle aurait pu faire des choses qui se belles, c'est pas plus mal. Mais la beauté, c'est pas la sainteté. C'est pas la sainteté. Alors, voyez, c'est ça que je veux dire. Donc comprenez bien ce que nous avons fait. Vous avez fait de l'art à l'éthique, à travers l'expérience de la responsabilité. Non, j'ai pas fait ça. J'ai regardé comment la responsabilité pouvait être le fondement de l'art. Vous voyez ? Et je ne suis pas passé par la responsabilité de l'art. L'art s'impose sans la responsabilité. Vous voyez, quand je vais regarder l'exposition d'un artiste que je ne connais pas, je ne dis pas, a-t-il la responsabilité de ce qu'il a fait ? Non, c'est autre chose. Peut-être un très grand artiste et manquer un peu de responsabilité, et même quelquefois très fort. C'est pour ça que c'est toujours très... D'épouser un artiste ou une artiste, c'est toujours assez délicat. Parce que quelquefois, l'épouse est tentée d'aimer la gloire de cet artiste plus que l'artiste lui-même. Ça peut arriver. Et l'artiste peut aimer plus son art que celle qu'il épouse. Alors ça ne se déclare pas le jour des fiançailles. Ça ne se déclare pas pendant les fiançailles. Non, pendant les fiançailles, c'est ça, tout est parfait. J'ai rencontré la personne la plus merveilleuse au monde qui soit. Elle a toutes les qualités. Alors, il faudrait noter tout ça, et puis 10 ans après. Ça monte, voyez, ça monte très fort la différence entre l'art et la morale. Ça monte très fort la différence. Comme c'est difficile, une vie commune pour des artistes. Comme c'est difficile, c'est parce que c'est... Par le point de vue chrétien, on peut aimer, mais l'artiste a besoin de solitude, il a besoin aussi d'amitié. C'est pas la vie commune, l'amitié. C'est pas la même chose du tout. Et quand l'amitié est très forte, c'est empoisonnant ces exercices de vie commune. C'est vraiment plus simple de se voir. Quoi. Parce que quand on se voit, on est toujours intelligent. Tandis que la vie commune vous rend bête. Pas la vie commune, mais on oppose les deux, vous voyez. Faut faire attention. La vie commune, elle est du côté
du côté éthique, pas du côté artistique, du côté éthique. Alors, il n'y a que lorsque vous avez la liturgie, vous avez l'éthique et l'art. La liturgie implique un art. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Hein. Parce que vous avez certains qui récitent les psaumes à mi-voix, en chuchotant. Parce qu'ils sont tellement pris par l'intérieur qu'il serait mieux que ce soit silence. Alors, comme ils sont obéissants, ils chuchotent. Alors, on leur dit, mais quand même, vous pouvez pas ouvrir la bouche. Et faut rester. Les psaumes, c'est une prière commune. Alors, la liturgiste dit ça. Et prier aussi peut dire ça. Et celui-là est tellement pris par la prière, un silence, c'est le silence qu'il faut. Parce qu'au fond, vous avez les deux. Vous avez l'art et la prière. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas d'opposition. La liturgie, à ce point de vue-là, est très importante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas d'opposition. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel art qui peut être liturgique. Il faut que l'art soit suffisamment, j'allais dire, il faut que l'artiste soit suffisamment pauvre comme homme pour accepter cet anonymat. Il aime bien de chanter comme un croque. Alors là, il est seul, les petites poules sont à côté, c'est très curieux ça. Et alors ça, c'est vrai, ça fait comprendre la réforme de Sainte Thérèse à propos de la liturgie. Et ça fait comprendre comment aujourd'hui, cette réforme de Sainte Thérèse, on désire la changer. Elle était de son temps. Non, elle était quelqu'un qui savait qu'il fallait l'humilité dans la vie commune et dans la prière commune. Et que l'humilité et la pauvreté étaient nécessaires. Oui, alors c'est très important et c'est très intéressant de voir le cheminement et les encroisements constants de l'art et de la vie commune et du point de vue éthique. Parce qu'il y a quelque chose de semblable avec le point de vue purement intellectuel. Parce que l'art développe l'intelligence plus que la morale. La morale développe la capacité d'aimer et l'intelligence à l'égard de l'ami. Et alors c'est la déviation de l'éthique vers l'amitié, déviation, l'orientation. Et dans l'amitié, l'intelligence renaît, plus que dans le point de vue purement moral. D'un point de vue purement moral, on est un peu fatigué, alors il y a la loi. Et la loi ne vous rend pas intelligent. La loi peut être très intelligente, mais elle ne rend pas intelligente. Alors que quand ce sont des lois qui ne sont pas intelligentes, et comme hélas certaines lois d'aujourd'hui, qui ne sont pas intelligentes, qui vont contre la morale, et donc qui vont contre la finalité de l'homme, vous voyez l'application, ça rendra des gens bêtes. Il ne faut pas être prophète pour dire ça, c'est très simple. Parce que la loi est porteuse d'intelligence quand la finalité est présente. Parce que la finalité, c'est la lumière de toute la morale. Alors ça, d'accord, la loi porte. Mais quand ces lois deviennent des lois qui ne sont pas justes, qui sont mauvaises, sont des lois de... Ça passe à cause du suffrage universel. Comme dit Cicéron, le suffrage universel, c'est toujours les moins intelligents qui l'emportent. Vous pouvez dire ça pour ceux qui sont élus, n'est-ce pas? C'est toujours les moins intelligents. C'est ça, c'est la dernière du suffrage universel. C'est, la plupart du temps, et là, c'est comme ça. Surtout qu'on peut les payer. Enfin, d'accord. On commence des législations mauvaises, on les paye. Payer un peu pour que immédiatement ils vous suivent. Donc là, il dit que l'expérience de la responsabilité devant un autre. Bon. Je je crois que l'expérience de la responsabilité à l'égard d'un autre fait appel à l'intelligence. Et c'est dans ce sens-là que c'est plus conscient. Est-ce qu'on pourrait faire ce passage à travers l'intention de vie qui est présente dans le travail, en faisant appel plus directement à l'homme qui oriente sa vie, à l'homme qui cherche son bonheur. Déjà très calé, ça. Vous avez déjà la distinction entre les deux, puisque vous essayez de voir lequel finalise l'homme. Alors, moi, je me place tout à fait au point de départ. Et me plaçant toujours au point de départ, je fais que cette distinction de l'art et de la morale dans notre monde d'aujourd'hui est constamment bloquée. Voyez Camus. Camus le dit de façon très très nette et de façon très forte et très intelligente. L'homme d'aujourd'hui, tout lui porte au point de vue artistique, au point de vue de l'efficacité. Et tout, au fond, l'inhibe au point de vue moral. C'est un fait, ça. Ce qui fait que éduquer aujourd'hui, c'est pas commode. Et je crois que éduquer aujourd'hui, si on rejette complètement le point de vue de l'art, ça n'ira pas. L'art renaît progressivement et risque d'étouffer, alors là c'est la querelle constante, d'étouffer le point de vue moral. On l'a renaît avec une violence surtout de revendication. La revendication est mauvaise conseillère. La revendication n'est pas intelligente. Elle est passionnée. C'est des revendications, vous voyez. Tout d'un coup, quelqu'un qui se réveille artiste. Il est engagé dans la vie religieuse et il se réveille artiste. Alors à ce moment-là, il ne comprend plus. Et la vie religieuse devient un obstacle qui l'empêche de développer son art. Donc il y a un aspect de revendication. Et cet aspect de revendication n'est jamais vrai, parce qu'il n'est pas finalisé par le bonheur. La revendication, c'est terrible, parce que il y a une certaine opposition mauvaise vis-à-vis de l'autre, et une jalousie terrible vis-à-vis de l'autre. Et c'est jamais bon, la revendication. Baser quelque chose sur la revendication, c'est aboutir à l'erreur. Alors vous voyez, il faut bien voir comment les problèmes se posent. Hein. Alors est-ce qu'on pourrait, on pourrait saisir ce passage à travers l'intention de vie ? C'est sûr que l'intention de vie est quelque chose déjà de beaucoup plus précis que l'expérience. Moi, je me base au point de vue de l'expérience, puisque nous avons précisé que toute notre philosophie vient de l'expérience. Alors, quelle est l'expérience qui conduit au développement de la morale ? Quelle expérience qui conduit au développement de l'art ? C'est uniquement ça que je voulais. Je ne voulais pas comparer l'art et la morale. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est que la morale se noue dans l'intention. Elle se noue dans l'intention de la morale. Donc, puisque la morale se noue dans l'intention et dans le choix, c'est le moment imminent. Mais ce n'est pas le début. C'est déjà très évolué. Avoir une intention de vie, c'est déjà pas si mal. Hein. Demandez, hein, faites le mendiant des opinions humaines. Mettez-vous. Hein. Parce que ça se fait de temps en temps maintenant. Je t'ai arrêté plus d'une fois. Mais quelle est votre intention de vie ? On a envie de répondre, ça ne vous regarde pas. Là, on est poli, puisque c'est souvent des jeunes qui vous posent la question. Quelle est votre intention de vie ? Quelle est l'intention de vos choix ? C'est déjà très élaboré, ça. Demandez ça aux braves gens qui n'ont pas fait du tout de philosophie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que l'intention ? réalisation, oui ou quoi, mais l'intention. Donc ne prenons pas ce qui est déjà très développé, où la différence se fait jour, mais au point de départ, ce que je cherche, voyez, et je n'ai peut-être pas assez dit, alors je le dis maintenant, puisque je vois que vous n'avez pas très bien compris ça, ce que je cherche, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fonde la morale. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il y a les deux, il y a l'amitié et la justice. Comme expérience globale, comme expérience sur laquelle il faut revenir tout le temps. On a dit, et certains le disent encore, la morale repose sur la loi. Mais vous comprenez très bien que c'est pas vrai du tout, ça. La loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce sont les hommes qui ont fait des lois. Ces hommes qui ont fait des lois, s'ils sont moralement bons, font des lois bonnes. S'ils ne sont pas moralement bons, présentent des lois mauvaises. Alors que la loi manifeste la bonté de l'individu, ah, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je vois la bonté d'un régime politique en fonction de ses lois. Il fait voter. Ça tout de suite. Et ça, c'est important de comprendre ça. La loi est un fruit d'une civilisation et d'une politique. Donc je ne peux pas fonder la morale sur la loi. Sur quoi puis-je fonder la loi, la morale? Je peux fonder la morale chrétienne sur la révélation, le Christ. Parce que c'est la foi. Je peux, l'Ancien Testament, fonder la loi. Non. Un jugement de foi et dire alors, oui, c'est la loi. La Torah, elle est toujours présente. Même pour un chrétien, elle est présente. Je n'ai pas le droit d'aller contre la Torah parce que c'est Dieu qui parle. Mais vous voyez, ça fait appel à la foi. Donc ce n'est pas le fondement, de la philosophie éthique. Ce n'est pas le fondement de la philosophie. La philosophie doit se tenir par l'expérience humaine. Et de l'expérience humaine, tout. Tout en philosophie doit pouvoir se justifier par l'expérience humaine. Or, la loi, c'est déjà l'homme qui l'a fait, donc je ne peux pas. Tandis que l'acte juste, on y tient très vite. Un gosse peut très bien dire à ceux qui l'éduquent, ah pardon, c'est pas juste ce que vous dites. Il aimera le dire, pour donner une petite leçon à son maître. Et ça, c'est la joie souveraine. Rabattre l'autorité. Ça se sent très bien. Le climat d'aujourd'hui, je prends. Le climat d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de pouvoir diminuer l'autorité. Alors, qu'est-ce qui va fonder la morale humaine? C'est ce que nous cherchons. Qu'est-ce qui fonde la morale chrétienne? Le Christ. Vous laissez devant ce silence, hein. Moi je suis obligé d'avancer. Donc, alors qu'est-ce qui va fonder la morale humaine? Est-ce la justice? L'acte fondamental. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de morale. Pouvez-vous nous dire ça? Non, on ne peut pas dire ça. Il peut rester des éléments de morale. Même si la justice est manifesté au nom des lois. Les lois devraient proclamer la justice. Donc tout ce qui est injuste ne fait pas partie des lois. Ça, c'est entre nous, philosophes. Si vous dites ça à un juge, il vous tapera sur les doigts. En disant, à quoi ça sert la loi, là ? Cherchons l'origine de la loi et sur quoi ça porte. Je cherche l'origine de la morale. Et qu'est-ce qui est fondamental à toute morale ? À toute morale. Parce que je suis la morale fondamentalement humaine. Vous voyez, c'est le problème d'une éthique, de la morale fondamentalement humaine. Savoir sur quoi ça se fonde. Alors, je constate, puisque il faut regarder ce que les autres ont dit, les deux grandes morales, le père de la morale, pour notre civilisation, pas pour l'Inde, c'est Socrate. Et donc, Socrate, je dois essayer de voir ce que Socrate lui-même a dit. Connais-toi toi-même et les dieux. La connaissance de soi. La connaissance de soi est fondement de la morale. Je crois. Je dirais plutôt que la conscience de soi est un élément essentiel de la morale. Pas le fondement. Fondement essentiel. Je ne peux rien conclure de ça. Mais parce que je touche l'élément nécessaire, l'ingrédient. Quel est le sel de la morale ? Ce qui fait de la morale la morale. C'est évident la conscience. Il faut regarder la manière dont les avocats, quand quelqu'un a fait un crime, après avoir pris un peu trop de rouge, parce qu'il aime les rouges, bon petit pinard, puis il en prend trop. Alors, quand il fait un acte à ce moment-là, qui se met à casser la vaisselle sur le dos de la servante, quand il fait ça, et qu'il peut aller même très loin, à meurtrir quelqu'un dans la colère, l'avocat sera toujours là pour dire, écoutez, il n'était plus lui-même. Il était un autre homme. Parce que je crois que c'est la conscience est toujours présente. Et s'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'acte moral. Parce qu'il n'y a plus d'acte volontaire. Mais ce n'est pas le contenu. Alors, le contenu, est-ce que c'est la responsabilité ? L'acte moral implique un rapport moral, un rapport personnel avec l'autre. Alors c'est la question qui se pose. Hein. Est-ce qu'on pourrait suivre ? Oui. Est-ce que l'éthique exige la présence d'un autre dès son point de départ ? C'est toute la question de la présence de l'autre. C'était la grosse question de Lévinas. Est-ce que l'autre est tout de suite inclus dans ma connaissance ? L'autre. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence ? Ceci est. C'est la découverte de l'autre. C'est donc premier dans la connaissance. Or, tout acte moral implique la connaissance. Quand il n'y a pas de connaissance, il y a la passion, l'instinct, c'est plus moral. Donc, l'autre est présent. Ceci est l'autre, c'est la réalité, autre que moi, c'est l'autre. La réalité autre que moi a toujours quelque chose qui n'est pas moi. Et qui me transcende. Et c'est ça qui est si étonnant dans le jugement d'existence. J'adhère à quelqu'un, à une réalité qui n'est pas moi, et donc qui me transcende, qui me dépasse, à laquelle je me soumets, ou auquel au contraire je me révolte. L'autre est objet de soumission, de révolte, les deux. Donc il est au-dessus. L'autre. Je crois que l'autre est toujours conscient dans tout acte moral. Parce que la connaissance vraie implique la connaissance de l'autre. Et ceci dès le début. C'est dans ce sens-là que le jugement d'existence peut être quelque chose de fondamental et de premier au point de vue philosophique. Rien d'autre n'est premier. L'autre implique ça. Implique l'être. Si l'autre n'existe pas, il n'est pas autre. Hein. L'autre, c'est un être existant autre que moi, différent de moi. Alors, est-ce qu'au point de vue moral, un acte moral, c'est un acte dont je suis responsable, c'est un acte qui nécessairement atteint l'autre. L'autre, l'autre que, auquel j'obéis, auquel je me révolte. Parce que c'est la conscience qui s'éveille avec l'autre. La conscience s'éveille avec l'autre. Vous n'avez conscience de vous que grâce à l'autre. La connaissance. Or, comme tout acte moral implique la connaissance, vous voyez, c'est à cause de ça. C'est pas la même chose pour l'amour. Est-ce que nécessairement vous aimez l'autre pour vous aimer? Est-ce que vous pouvez vous aimer tout seul? Vous savez, quand vous voyez dans certains restaurants chics, certaines personnes qui prennent le repas seules, se délectant d'un tien supérieur. Je ne vois pas un jeune faisant ça. Hein. Un vieillard, oui, parce qu'il n'y a personne avec qui parler. Alors il parle avec les aliments qu'il goûte et qu'il trouve très bons. Alors il y a un dialogue secret, effectivement. Mais... Enfin, c'est une question qui a hanté Lévinas. Et c'est une question qui est très importante. Pouvons-nous connaître en mettant entre parenthèses l'autre? Pouvons-nous aimer nous-mêmes en premier lieu?